Les autres. Ils sont le reflet de nos ignorances, de nos imperfections physiques, morales et mentales. Le regard des autres nous déshabille parfois. Il nous ôte notre superbe souvent, ébranle nos certitudes presque toujours. Les autres réduisent nos convictions aux extrémités les plus folles. Ainsi pensait Zara, 12 ans, abreuvée de lectures qu'elle ne comprenait pas forcément, mais qui nourrissaient sa solitude. Elle trouvait dans les livres une raison de continuer. Il donnait à ses rêves, la réalité Zara ne la voulait qu'en oubli au fond d'un trou, un avenir un peu plus réjouissant. L'enfer, c'est les autres, avait pour elle une signification profonde. Zara avait beaucoup à dire sur la question. Quand on a la taille d'une adulte à 12 ans, un corps gauche et réfractaire à tout exercice, l'esprit trop vif et qu'on est surdoué dans toutes les disciplines scolaires, on a forcément un avis sur la question. Parce que les autres vous détestent pour ce que vous avez d'exceptionnel qu'ils n'ont pas, ils vous repoussent pour cette différence. Parce que les autres se gaussent des qualités dont ils se targuent en réunion, mais qui ne sont que les normes du plus grand nombre. Parce que les autres vous montrent du doigt qui se veut inquisiteur. Même son père se prêtait au jeu de la détestation. Lui, ce qu'il n'aimait pas, c'était les jeunes, plus beaux, plus forts, plus vifs et plus à la mode. Le plâtrier servile, qui œuvrait pour un fabricant de maisons, de maçons, n'avait pas supporté qu'on lui préférât un jeune, con, pour faire le chef. Depuis, il cantinait tous les midis avec un tatoué haineux au crâne rasé. Ils dissertaient tous deux, en braillant leurs pauvres phrases et arguments, d'une seule pièce à la cantonade, tout en taillant des costards aux responsables de leur malheur, à savoir les autres. Pendant ce temps, Zara pleurait dans sa chambre. Chaque soir, avec la même idée en tête, elle pensait que regarder les autres, surtout s'ils étaient autres, serait le meilleur moyen d'apprendre, de trouver un chemin de paix et de donner du sens à notre perfectibilité. Elle pensait à Omar qui lui souriait souvent. Elle n'osait pas l'aborder, encore moins en parler à ses parents qui n'aimaient pas trop les basanés. Tout lui plaisait chez Omar, jusqu'à son rire un peu niais lorsqu'il calait devant ses professeurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Omar n'osait pas l'aborder parce qu'il se sentait un peu con devant la première de la classe. Chacun avait tout ce que n'avait pas l'autre. Un élan sincère trouve toujours un chemin. Omar, avec la maladresse qu'ont souvent les forces de la nature timide et empêchée dans leur corps trop puissant, l'aborda un jour pour un rien. Ils devinrent un tout, passé les hésitations et les quelques bégaiements d'usage. Ce fut le début d'un long combat qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Quand les réflexes épidermiques prennent la place de la réflexion, les routes se compliquent. Quand les a priori ne franchissent pas le seuil de la curiosité, les guerres se déclarent. Le père de Zara était un crétin, mais Zara l'aimait. Elle fut meurtrie à jamais par la cécité de son géniteur. Si pour Zara regarder l'autre pour apprendre, pour comprendre, était une évidence, pour son père c'était sans intérêt. La différence ne suscitait en lui que méfiance, indifférence feinte, crainte et haine. Ignorer l'autre point de vue confortait le sien à bon compte. Le père d'Omar était tout aussi crétin. Comme d'habitude, ce furent les femmes, seules à défendre, à n'être point peureuses, à ne pas vouloir attendre. Les amis furent réunis et les crétins forcés de se serrer la main, d'éviter les imbécilités devant leurs enfants qui vivaient leur première fois. De ce jour, Zara et Omar ne se quittèrent plus. Ils s'apprirent à vivre l'un de l'autre. Zara découvrit son corps en le faisant bouger, Omar découvrit sa tête en la faisant penser. Le tout sous l'œil suspicieux des pères créateurs, persuadés tous deux de détenir le vrai du faux. En attendant, les deux ados en profitèrent pour grandir. En quelques années, ils firent la nique à leur père sur bien des sujets, allant parfois jusqu'à les ridiculiser en les collant face à leurs contradictions et leurs ignorances. C'est ainsi qu'il devint un ethnologue spécialisé en anthropologie culturelle. Passe le temps. Ils purent ainsi pratiquer leur discipline sans avoir à se déplacer, juste pour rire. Monsieur Soustra, le plâtrier, finit par se soumettre aux enfants. Il accepta l'existence de l'autre qui, finalement, n'était ni un bougnoule, ni un melon, mais un être humain. Évidence, mon bon Lapalisse. Évidence qui donne à nos reculs et à nos a priori un goût de connerie détestable. En fait, nous avons tout à apprendre des peuplades primitives qui n'ont pas perdu l'essentiel. Au lieu d'éradiquer la plupart d'entre elles, nous aurions dû nous en inspirer. Ne serait-ce que pour le rapport intime qu'ils ont avec Mère Nature. Zara et Omar, au fil de leurs recherches, apprirent et découvrirent ce sentiment de déférence que nous devrions tous accorder à l'autre avant de le condamner au bûcher. Mais apprendre la modestie, ne plus détenir la seule vérité et prendre le parti d'aimer sans contrepartie, demande un travail d'introspection réservé visiblement aux justes. Ceux qui ne craignent pas la vie et qui acceptent d'en prendre les leçons comme et avec les autres. Ceux qui abandonnent cette fatuité, cette prétentieuse suprématie les uns vis-à-vis des autres, tandis que nous ne sommes qu'une larme minuscule dans l'océan de l'univers. Alors soyons un peu civilisés car les autres sont le début avant la fin de toute chose. Sur ce docte propos, je vais de ce pas verser ma larme minuscule dans le miel de ma pensée.